Alors, si vous étiez à la réunion de prière début juillet, c'est la dernière réunion du jeudi soir qu'on a eue avant la coupure de l'été, vous vous souvenez peut-être que je vous avais parlé de deux amis, imaginaires bien sûr, à moi, qui s'appellent deux femmes, qui s'appellent Gertrude Grabowski et Daphné de Beaumenton. Vous vous souvenez de ça? Qui était là en fait? Ouais, les Campois, vous étiez là, comme d'habitude. Et vous vous souvenez aussi peut-être qu'en parlant de Gertrude Grabowski et de Daphné de Beaumenton, je vous avais demandé d'imaginer dans votre esprit de quoi ces deux dames pouvaient avoir l'air. Et sans trop de surprise, il y avait un consensus relatif pour dire que Gertrude Grabowski était probablement quelqu'un d'assez désagréable, peut-être pas très joli, tandis que Daphné de Beaumenton était sans doute quelqu'un très distingué, très poli, très gentil, et peut-être même une jeune femme mignonne, qui sait. Et en fait, on avait fait cet exercice intellectuel pour montrer qu'en fait, avec les noms que nous entendons, il y a souvent des préjugés qui y sont attachés, n'est-ce pas ? Peut-être bien que, en fait, Gertrude et Daphné, c'était tout l'inverse de ce que vous auriez imaginé. Et parfois, il en est de même pour d'autres concepts, d'autres personnes, d'autres noms, y compris celui de Dieu. Quels sont les préjugés qui sont attachés dans votre esprit, dans le mien, dans ceux des gens que nous côtoyons au quotidien? Quels sont les préjugés attachés à ce nom, Dieu? À quoi ressemble Dieu? Quelle idée nous faisons-nous de Dieu? Et l'idée que nous avons de Dieu, hein, selon d'abord qu'il existe ou non, selon qu'il est personnel ou non, selon qu'il est bon ou non, selon qu'il est juste ou non, limité ou infini, cruel ou bienveillant, patient ou intransigeant, l'idée que nous nous faisons de Dieu a des conséquences concrètes et ô combien importantes, n'est-ce pas, dans la manière dont nous concevons déjà la foi, dans la manière dont nous concevons la foi chrétienne, dans la manière dont nous vivons notre vie, et même dans notre rapport avec toute religion, quelle qu'elle soit. Et ce soir, je ne vous connais pas tous personnellement, certains d'entre vous je vous connais, mais je ne vous connais pas de fond en comble. Hein. Peut-être que vous avez eu ou connaissez des gens qui ont un rapport assez désenchanté avec la religion. Des gens qui se disent que la religion, c'est intéressant, mais avant tout, la religion, finalement, c'est une béquille pour les faibles. Et quand on a suffisamment évolué en tant qu'être humain, on peut se débarrasser des chaînes de la religion et atteindre, finalement, la vraie liberté. Peut-être que vous-même ou des gens que vous connaissez avez été blessés ou brûlés par la pratique d'une religion dans le passé, y compris la religion chrétienne, hein, peut-être même dans un cadre protestant, évangélique, je ne sais pas. Peut-être que vous avez pratiqué une religion pendant des années sans y avoir trouvé un sens. Je sais que plusieurs dans notre assemblée ont été dans l'église catholique pendant un temps. Et peut-être qu'aujourd'hui encore, vous avez, disons, une religion, entre guillemets, vous êtes protestant, évangélique, vous venez au culte. Et peut-être que vous êtes venu encore aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour célébrer un culte bien sophistiqué, avec des chants, des beaux chants, des prières, des lectures bibliques, mais au fond, vous avez cette drôle d'impression qui vous turlupine. L'impression que tout ça, ça sonne creux, qu'on fait semblant, finalement. Et c'est vrai que dans notre église, comme d'ailleurs dans d'autres églises réformées, mais je vous rassure, c'est pas une particularité propre aux églises réformées, mais c'est vrai qu'on voit ça peut-être un peu plus dans les églises réformées, on a parfois l'impression que c'est un peu mort, pour le dire en des termes un peu simples, hein, que c'est un peu mort, que c'est machinal le culte. Surtout quand on allume la télé, quand on tombe sur une des chaînes du câble, genre Dieu TV, ou vous savez, ce genre de chaîne, où là on voit des stades entiers remplis de dizaines de milliers de croyants avec les bras qui se balancent et la musique à fond, on se dit « mais ça c'est un culte !» Puis après on vient le dimanche soir à l'église réformée évangélique. Qu'est-ce qui cloche? Alors le psaume 50... auquel on va s'attacher pendant 3 semaines, hein. Aujourd'hui et les 2 prochains dimanches, on va le voir en 3 parties. C'est un psaume qui a été écrit par quelqu'un qui avait une certaine responsabilité, même une responsabilité importante dans le culte de son époque. Et son époque, c'est à peu près 1000 ans avant Jésus, donc vous voyez, c'est à peu près il y a 3000 ans. Asaph, c'était un peu le chef de chœur de son époque, il conduisait une chorale, hein, pour le dire en des termes contemporain. Et il a écrit ce psaume. Asaph, il n'a pas écrit beaucoup de psaumes, hein, mais il a écrit ce psaume sans doute en réfléchissant à son rôle et à son expérience dans le cadre du culte. Il avait beaucoup d'expérience. Et je me suis dit que le message de ce psaume nous serait utile aussi au moment où nous allons démarrer une nouvelle année scolaire et universitaire, reprendre les activités de l'Église. Moi, je vais reprendre aussi ma série habituelle dans les psaumes des montées, là où on s'était arrêté avant l'été. Parce que je pense que ce que Asaph veut nous dire à travers ce psaume, c'est qu'il ne suffit pas d'adorer pour que cette adoration soit bonne. Adorer ne veut pas forcément dire adorer pour de vrai. Et vous vous souvenez de cette parole de Jésus qui a dit que les adorateurs, hein, que le Père recherche, ce sont des gens qui adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il y a des adorateurs, et parmi ces adorateurs, il y a ceux qui adorent en esprit et en vérité. C'est cela que nous voulons être. Ce sont des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Des adorateurs qui adorent pour de vrai. Et ce sera l'occasion, peut-être aujourd'hui, les deux prochains dimanches, de se poser des questions sur notre façon d'adorer, peut-être sur nos attentes au moment de venir au culte dimanche et sur nos attentes en général vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis de notre religion, parce que je pense qu'on peut utiliser ce terme religion qui étymologiquement veut simplement dire être relié à, donc relation à Dieu. Oui, on a une religion en tant que protestant évangélique. Ce sera l'occasion donc de réfléchir à tout ça, et peut-être pour certains d'entre vous ce sera la première fois que vous réfléchirez vraiment au sens de la foi. Et il y a trois choses dans ce psaume qu'on va voir successivement aujourd'hui, la semaine prochaine et la semaine d'après, que le psalmiste veut nous enseigner pour que nous puissions adorer pour de vrai. La première qu'on va voir ce soir, c'est il veut que nous nous souvenions de Dieu. Adorer pour de vrai, c'est d'abord se souvenir de Dieu. Deuxièmement, la semaine prochaine, on verra que c'est aussi offrir la reconnaissance. Et troisièmement, on le verra dans deux semaines, c'est veiller sur sa voix. Alors on va lire la première strophe du psaume 50, il s'agit donc des versets 1 à 6. Psaume d'Asaph. Dieu, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui concluent une alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux annonceront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Et ensuite, votre traduction insère peut-être ce petit mot qui est là en hébreu. Pause. Je vous invite à prier avant de continuer. Encore une fois, nous plaçons ces moments entre tes mains, Seigneur, pour que tu les bénisses, ces moments de méditation de ta parole, et que tu les utilises pour nous instruire et nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. La première chose que le psalmiste veut nous faire comprendre, c'est que pour que nous nous souvenions de Dieu, pour que nous nous souvenions de qui il est, de quoi il a l'air, le Dieu que nous adorons en tant que croyants, en tant que chrétiens, la première chose qu'il veut que nous... La première chose dont il veut que nous prenions conscience, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint. Vous avez noté, dans notamment les versets 1 à 3, la façon dont il parle de Dieu. Dieu, Dieu, l'Éternel. Vous voyez l'insistance qu'il fait sur le nom de Dieu. Et ensuite, il ajoute verset 2, Dieu resplendit. Verset 3, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. L'idée que le psalmiste veut que nous retenions, c'est que Dieu est pur, et si pur, que l'imperfection ne supporte pas sa présence. Il est un feu tel qu'il dévore. Un feu dont on devrait avoir peur. Une violente tempête l'entoure. On n'est pas en sécurité auprès du Dieu, Dieu l'Éternel, dont le psalmiste veut nous parler. C'est étonnant comme façon d'aborder son sujet, non ? On a tous les jours à notre disposition une illustration, une représentation de la sainteté de Dieu. C'est le soleil. Et il y a des passages dans l'Écriture où Dieu est comparé au soleil. Pourquoi est-ce qu'il est une représentation plutôt bonne de la sainteté de Dieu, le soleil ? Bien parce que le soleil fait environ 15 millions de degrés en son noyau. 15 millions de degrés. En fait, si vous vous éloignez du soleil, de la surface du soleil, allez, disons à 1 million de kilomètres, c'est loin, 1 million de kilomètres, devinez quelle température il fait à 1 million de kilomètres de la surface du Soleil. Eh bien, il fait encore 1 million de degrés à 1 million de kilomètres de la surface du Soleil. Et même la Terre, qui est à 150 millions de kilomètres du Soleil, s'il n'y avait pas l'atmosphère pour nous protéger des rayons du Soleil, la vie ne pourrait pas subsister sur Terre. Tellement, il ferait chaud. Vous voyez, le Soleil est une représentation plutôt bonne de la sainteté de Dieu, de ce feu dévorant qu'est Dieu, de cette violente tempête qui l'entoure, une sainteté si éclatante qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, ni le regarder en face sans se faire mal, exactement comme le Soleil. Et nous, on enseigne à nos enfants, souvent, ne regarde pas le Soleil en face, tu vas te brûler les yeux, tu vas avoir des problèmes de vision après. Et certains se sont rendus aveugles, en regardant le Soleil. Psaume 84, verset 12, « L'Éternel Dieu est un soleil. » Alors, c'est pas par hasard que le psalmiste commence ce psaume avec ces noms de Dieu. Dieu, Dieu, Yahvé, l'Éternel. En hébreu, c'est Yahvé, ou parfois c'est traduit Jéhovah. Celui qui porte ce nom qui est tellement saint pour les Juifs. Le nom que Dieu a révélé à Moïse depuis le buisson ardent dans le livre de l'Exode. À cette occasion-là, Dieu avait dit à Moïse, ne t'approche pas. Et d'ailleurs, enlève tes sandales, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. Et un peu plus tard, Moïse a même demandé s'il pouvait voir la face de Dieu, mais Dieu lui a répondu, non, tu rigoles ou quoi? L'homme ne peut me voir et vivre. C'est juste pas possible. Les Juifs, d'ailleurs, évitaient de prononcer ce nom de Dieu, qui est traduit dans nos Bibles, l'Éternel. Tellement, ils avaient conscience de la sainteté de leur Dieu. Alors, j'ai pas besoin de vous convaincre, je l'espère, ce soir, que l'homme n'est pas parfait. J'espère que vous n'êtes pas venus en pensant que l'homme était parfait. L'homme n'est pas parfait. Notre cœur à chacun est rempli d'impureté et de mauvais penchants. Et la Bible appelle cela le péché. C'est notre condition commune à nous, tous les êtres humains, à l'exception d'un seul, mais je vais y venir tout à l'heure. Et le péché, d'après la Bible, nous prive ou nous coupe de la gloire de Dieu. En fait, c'est pour ça, vous voyez, qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu, parce que le péché nous salit, et nous devenons par conséquent indignes de nous tenir dans la présence de Dieu. C'est Paul qui le dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit aussi tout son péché et son privé de la gloire de Dieu. C'est à cause du mal qui est en nous que Dieu a dit que l'homme ne pouvait le voir et vivre. Si nous étions exposés à l'éclat intense de la parfaite sainteté de Dieu, nous serions consumés instantanément. C'est ce qui nous arriverait si on était à 1 million de kilomètres du Soleil. C'est ce qui arrive à un chamallow lorsque vous le rapprochez de la flamme. La prochaine fois, vous mangez des chamallows, et c'est la saison, des barbecues et des chamallows, vous regardez le chamallow fondre et se consumer sans même toucher la flamme, sans même toucher la braise. Ça, c'est ce qui arrive à l'homme qui s'approche de Dieu à cause de son péché et en raison de la sainteté de Dieu. Mais si on avait vraiment conscience de cela, chaque dimanche quand on se lève et qu'on vient à l'église, qu'est-ce que ça changerait à l'ambiance au culte? Qu'est-ce que ça changerait à nos attentes, à nos préoccupations lorsqu'on vient à l'église? Qu'est-ce que ça changerait en fait chaque jour si on y pensait en se réveillant le matin? Qu'est-ce que ça changerait à la façon dont on mène notre vie? Est-ce qu'on n'aborderait pas la question de la foi, la question de l'existence de Dieu, notre relation à lui, avec beaucoup plus de crainte, mais aussi beaucoup plus d'attention? Est-ce qu'on ne viendrait pas à l'église avec plus de crainte et plus aussi d'attention, en se disant, on va se présenter devant ce Dieu saint, moi pécheur. Je vais chanter pour Dieu, je vais prier, je vais être exposé à sa parole, la parole d'un Dieu saint. Qu'est-ce que ça devrait changer à notre attitude? Mais le psalmiste ne s'arrête pas là, il ne nous parle pas seulement de la sainteté de Dieu. En fait, il va un peu plus loin, c'est mon deuxième point, et mon deuxième point, il est pire que le premier. Il est pire que le premier parce qu'après nous avoir dit que Dieu était saint, le psalmiste nous dit que Dieu est proche. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle pour des pécheurs, pour les pécheurs que nous sommes, étant donné la sainteté de Dieu. Verset 1, il dit « Dieu parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au couchant. » Autrement dit, Dieu n'est pas silencieux, secret, retiré dans un coin du cosmos. Non, ce n'est pas un concept abstrait, très très lointain dans l'univers. Dieu parle. Et non seulement il parle, mais il s'intéresse à toute la terre, à tous les hommes. Il convoque la terre, il convoque le monde, sa création. Et non seulement cela encore, mais c'est pas parce que c'est pas juste à un moment donné de l'histoire, ponctuellement, que Dieu va parler et convoquer la terre, mais le psalmiste dit du soleil levant jusqu'au couchant. En permanence, quoi. Dieu parle, convoque la terre, le monde entier, en permanence. Il s'intéresse à sa création, en permanence. Il s'approche et il veut, et il sollicite, si vous voulez, sa création, en permanence. Non seulement cela encore, mais verset 3, il vient, nous dit le psalmiste. Il ne reste pas en silence. Pour reprendre le titre d'un livre de Francis Schaeffer, Dieu est ni silencieux ni lointain. Ce qui contredit beaucoup de préjugés que beaucoup de personnes ont au sujet de Dieu. Dieu, il existe, mais il est silencieux et lointain. Ou s'ils ne le disent pas comme ça, c'est comme ça que ces préjugés se traduisent dans la vie de beaucoup de personnes. Il est silencieux et lointain, Dieu, s'il existe. Mais pas du tout. Il est ni silencieux ni lointain. Le psalmiste contredit explicitement cette idée-là. Dieu est engagé de toute sa personne dans une relation avec sa création et avec l'humanité en particulier, parce que les êtres humains sont le couronnement de sa création, c'est la cerise sur le gâteau, c'est le plus beau chef-d'œuvre de Dieu ici-bas, c'est l'être humain. Pourquoi ? Parce que l'être humain porte son image. Dieu n'a pas créé la terre et l'humanité pour ensuite s'en désintéresser. Ça, c'est l'idée des gens qui se disent déistes. Et un certain nombre de philosophes à l'époque des Lumières étaient des déistes. C'était pas du tout des athées. Il croyait qu'il y avait un Dieu, mais qu'il était loin. Il a créé le monde, il a lancé la machine, voilà. Et puis après, il s'est retiré, il fait autre chose. Vous voyez, il est à la retraite, enfin, on ne sait pas trop ce qu'il fait, mais il est loin. Il est parti. Voltaire et d'autres de son époque notamment, et encore aujourd'hui, ont mis en avant cette idée que Dieu était comme un grand horloger qui a créé l'horloge. Il a remonté l'horloge, et puis ensuite, il l'a laissé fonctionner toute seule. Et il laisse l'horloge tourner sans intervenir. Mais la Bible dit bien au contraire que Dieu s'intéresse aux hommes. Il s'intéresse à ce qui se passe sur la terre. Jésus, dans l'évangile de Matthieu, nous rappelle que le Père donne à manger aux petits oiseaux. Il habille les fleurs dans les champs, dans les prés, dans les montagnes, dans les Alpes. C'est Dieu qui fait ça. Il fait se lever le soleil, il fait pleuvoir, il gère sa création dans sa providence. Il n'est pas du tout lointain. C'est pas du tout l'horloger qui s'est absenté. En dépit même de notre péché, de nos imperfections, de notre rébellion, en dépit de notre indifférence, peut-être même à plus forte raison à cause de notre péché, Dieu se préoccupe de nous et de ce qui se passe ici-bas. L'horloge, en fait, tourne mal. Et parce qu'elle tourne mal, elle a encore plus besoin de l'attention de l'horloger, n'est-ce pas ? Même en France, où à peu près un peu plus de 30% de la population se dit athée ou non-croyante. En France, où plus de 30% de la population a manifestement, ouvertement tourné le dos à Dieu, même en France, Dieu n'a pas, quant à lui, tourné le dos aux Français. Il ne s'est pas retiré de la France, il n'est pas parti dans un autre pays en se disant que là-bas, les gens s'intéresseraient plus à lui. Il continue de s'intéresser à nous. Dieu nous parle, Dieu nous appelle, nous convoque du lever du soleil jusqu'au couchant. Est-ce que nous sommes à son écoute ? Peut-être que vous ne vous étiez jamais imaginé, vous ou quelqu'un qui écoute ce message sur Internet, peut-être que vous ne vous étiez jamais imaginé que Dieu pouvait s'intéresser personnellement à nous. Et donc, parce que vous ne vous étiez jamais imaginé que Dieu pouvait s'intéresser personnellement à vous, eh bien vous, en retour, vous n'avez jamais fait attention à Dieu. Vous n'avez jamais prêté attention, vous n'avez jamais tendu l'oreille à ce qu'il avait peut-être à dire, à ce qu'il était peut-être en train de dire, du lever du soleil jusqu'au couchant. Peut-être que Dieu est beaucoup plus proche de sa création que vous le croyez. Peut-être qu'il est beaucoup plus proche de vous que vous le croyez. L'apôtre Paul le dit, acte 17. Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Peut-être même que Dieu a le désir d'être beaucoup plus impliqué dans votre vie que vous ne le pensez aujourd'hui. Mais je le disais il y a quelques instants, le problème, c'est la combinaison, l'association de deux facteurs. On l'a dit dans un premier point, Dieu est saint. Dans un deuxième point, il s'intéresse à nous, il est proche. Et c'est un problème qui peut se résumer à une simple formule. Vous avez fait des maths dans le passé. Sainteté plus proximité égale danger. Sainteté plus proximité égale danger. Sainteté plus proximité égale jugement, pour utiliser un terme biblique. Et cette réalité est soulignée par ce verbe qu'utilise le psalmiste dans ce psaume, le verbe « venir ». Verset 3. Après nous avoir dit que Dieu resplendissait, que devant lui était un feu dévorant, après nous avoir dit qu'il resplendissait, et avant de nous dire qu'il était un feu dévorant, et qu'autour de lui il y avait une violente tempête, verset 3, il dit « Il vient ». Mais qui sera capable de supporter la venue de ce feu dévorant? Qui sera capable de tenir debout lorsque cette violente tempête se déchaînera? Qui sera capable de supporter la venue du Dieu saint, en présence duquel tout ce qui est empreint de mal sera consumé? Qui sera capable de subsister à la venue du juge souverain, omniscient, tout-puissant, qui ne tiendra aucun coupable pour innocent? Qui? En métallurgie, on pratique ce qu'on appelle l'affinage. Et l'affinage consiste à mettre un métal brut, un minerai, si vous voulez, à l'état brut, dans un feu très très chaud. Et le feu agit comme un juge, c'est-à-dire que le feu va brûler toutes les impuretés pour que de ce feu en ressorte le métal purifié. Ça, c'est l'image du jugement dans la Bible. Et il en est de même en présence du Dieu saint et parfait. Seulement ce qui est juste peut supporter sa présence. Le psaume 14 nous rappelle à cette dure réalité où il est dit « L'Éternel du haut des cieux se penche sur les êtres humains » et son constat, « Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Mais curieusement, le psaume nous parle quand même de certaines personnes, au verset 5, qui sont appelées ici les fidèles de Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles, dit Dieu. L'humanité, en présence de Dieu, semble, d'après le psaume, mais le reste de la Bible nous le confirme, semble être partagée entre ceux qui sont les fidèles de Dieu et puis les autres, ceux qui ne sont pas les fidèles de Dieu. Et en fait, je pense qu'on a là vraiment le verset clé de cette première strophe, où il est dit « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui conclut une alliance avec moi par le sacrifice. » Verset 5. D'après le psalmiste, qu'est-ce qui, dans cette simple phrase, qu'est-ce qui assure le statut des fidèles et leur relation à Dieu? Le sacrifice. C'est dit, noir sur blanc ici. Alors, si vous faites un peu d'escalade, d'alpinisme, vous avez peut-être lu des livres, comme moi j'en ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, des livres d'aventure qui se passaient en montagne. Et souvent dans des situations désespérées où on a quelqu'un qui est tombé au fond d'une crevasse ou qui est suspendu en haut d'une falaise, situation désespérée, bien parfois il faut sacrifier du matériel. En l'occurrence, si on est suspendu au-dessus d'une falaise, au-dessus du vide, on peut être amené à sacrifier une corde. On pose une corde fixe et puis on descend le long de la corde pour pouvoir atteindre le bas de la falaise et s'en sortir vivant, mais on ne peut pas récupérer la corde après. Il y a des situations désespérées comme ça, et peut-être que vous pensez à d'autres sports, d'autres situations, où un prix doit être payé, quelque chose doit être perdu pour qu'on puisse s'en sortir. Et notre situation devant la sainteté de Dieu est un peu du même ordre. Elle est telle, notre situation, que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. C'est impossible que nous en sortions tout seuls par nos propres forces, par nos propres mérites. C'est juste impossible. Cette situation exige qu'un prix soit payé pour satisfaire la parfaite justice de Dieu. Mais voici le sens de mon illustration de la falaise. Quel sacrifice serait suffisant? Quelle corde serait assez longue pour nous sortir d'une falaise dont la hauteur est infinie? Vous avez fait des maths. Vous voyez que ce n'est pas possible. Une corde d'une longueur infinie, moi je ne pars pas souvent en montagne avec ça dans mon sac, ça serait un peu lourd à porter. Pour satisfaire la perfection de Dieu, il faut un sacrifice parfait. Un sacrifice dont la valeur serait à la mesure de la sainteté éblouissante de Dieu. un glaçon qui soit assez froid pour refroidir le soleil, si vous voyez ce que je veux dire, enfin pour subsister à la chaleur du soleil. Qu'est-ce qui serait suffisant? C'est juste impossible à imaginer dans notre esprit. Parce que la seule chose qui a une valeur parfaite, hein, c'est Dieu. Et heureusement que la Bible nous dit que c'est Dieu en effet, lui-même, qui a pourvu au sacrifice dont nous avions besoin pour nous sortir de notre situation désespérée. Le sacrifice d'une valeur parfaite, suffisant pour régler, selon les exigences de la parfaite sainteté de Dieu, eh bien la dette, régler la dette d'une multitude innombrable d'hommes et de femmes et d'enfants, comme vous et moi, pécheurs aux yeux de Dieu. Ce sacrifice, c'est celui de Jésus-Christ, le Fils éternel de Dieu. Dieu fait homme, Dieu incarné. L'apôtre Paul nous dit qu'en Jésus habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça, c'est une corde assez longue pour nous faire échapper à une falaise d'une hauteur infinie, n'est-ce pas? Parce qu'en Jésus-Christ habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il s'est offert en sacrifice. Il s'est offert en rançon pour payer le prix infini donc, de notre délivrance. Il était le seul homme à avoir vécu sans commettre le mal. Je vous disais qu'il y avait une exception dans le genre humain. Un seul homme à n'avoir jamais commis de péché, à être né sans péché, il s'agit de Jésus-Christ. Mais non seulement il était l'homme parfait, mais il était Dieu fait homme, Dieu incarné. Voilà pourquoi l'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il est le seul sacrifice suffisant qui puisse satisfaire à notre place la parfaite sainteté de Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit, rassemblez-moi, enfin c'est Dieu qui dit ça par le psalmiste, rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui concluent une alliance avec moi, c'est-à-dire qui ont établi leur relation avec moi, ceux dont la relation avec moi est établie par le sacrifice. Et les Juifs de l'Ancien Testament avaient bien compris, ceux qui en tout cas faisaient attention au message de l'Ancien Testament, avaient bien compris que les sacrifices qu'ils offraient au temple quotidiennement, mensuellement, annuellement, ces sacrifices n'étaient jamais suffisants pour les délivrer du péché, puisqu'il fallait les répéter encore, encore et encore. Et même les prêtres qui offraient les sacrifices devaient en offrir pour eux-mêmes, parce qu'ils n'étaient pas juste eux-mêmes. Et Jésus vient. Et en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et lui, il s'offre en sacrifice sur l'autel de l'Alliance. Et c'est pour ça qu'il dit, au moment où il institue la Sainte Cène avec ses disciples, il dit, il rompt le pain, il dit, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Et ensuite il prend la coupe et il dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance. Et vous savez, dans le grec, c'est plus précis que ça. Il dit, ceci est mon sang de l'Alliance. Le sang qui a été versé, qui a coulé pendant des générations au temple des Juifs, a coulé de façon ultime et suffisante lorsqu'il a coulé sur la croix, là où Jésus est mort. L'alliance a été établie ainsi, une fois pour toutes, avec tous les fidèles de Dieu. Le prix a été payé. Donc le psalmiste, je le disais en introduction, voulait nous montrer, et c'est ce qu'il va continuer à nous montrer dans les autres parties de son psaume, et on verra ça la semaine prochaine et la semaine d'après. Il voulait nous montrer que adorer en soi ne signifie pas forcément adorer pour de vrai. Il ne suffit pas d'être un adorateur. Dieu veut des gens qui adorent en esprit et en vérité. Et la première chose qui constitue cette adoration authentique, véritable, la première chose qui est importante de faire, c'est se souvenir de Dieu, qui il est, comment il est. Qu'est-ce qu'il est? Comment s'est-il révélé à nous? Dieu n'est pas n'importe qui. Dieu n'est peut-être pas le Dieu que vous vous imaginiez en venant aujourd'hui dans votre tête. Le Dieu que nous adorons, c'est celui qui s'est fait connaître à travers les prophètes, dans la Bible et à travers Jésus-Christ. Toute pratique religieuse, en effet, n'a de sens qu'à partir d'une idée juste de qui est Dieu. Tout culte n'a de sens qu'à partir d'une idée juste de celui qui est l'objet du culte. Sinon, c'est un culte vain, un culte insensé, et peut-être pire, un culte idolâtre. Et on a donc vu, dans un premier temps, que Dieu était parfaitement saint. Ensuite, on a vu dans un deuxième temps, dans cette première strophe, toujours que Dieu était proche et qu'il voulait avoir une relation avec les êtres humains, avec sa création. Il se préoccupait de sa création. Et troisièmement, on a vu que cette relation n'était possible que grâce au sacrifice. Et le seul sacrifice suffisant qui a été offert, c'est celui de Jésus à la croix. Et donc, ça nous fait dire quoi? Que le point de départ d'une foi pertinente, de la vraie foi, le point de départ du vrai culte, de la vraie religion, de la vraie relation à Dieu, le point de départ d'une vie même qui a du sens, c'est Jésus-Christ. C'est celui qui a offert ce sacrifice tellement nécessaire. En dehors de Jésus, notre religion, notre culte, notre foi et même notre vie est vaine. Quelle est donc votre relation à Jésus aujourd'hui? Est-ce que vous avez reçu de la part de Dieu le pardon et le salut qu'il vous présente à travers le sacrifice parfait, précieux, suffisant de Jésus à la croix? C'est un salut qui est offert gratuitement, nous n'avons rien à faire pour le mériter. Il nous suffit, pour reprendre l'expression du psalmiste dans le psaume 2, il nous suffit d'embrasser le Fils, c'est-à-dire de nous incliner devant lui et de recevoir ce qu'il veut nous offrir, lui faire confiance tout simplement, l'aimer en retour. Si nous prenons le temps donc, comme nous l'avons fait aujourd'hui, et comme je vous encourage à le faire chaque jour, si nous prenons le temps de nous souvenir de Dieu, alors notre culte, notre foi, notre vie ne sonneront pas creux, mais alors devant la sainteté de Dieu, nous aurons une crainte respectueuse. Devant sa proximité, nous aurons une attention humble. Et devant son jugement, nous aurons une assurance bien fondée. Amen.